monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 23 juin.
Selon Ned Price, Washington attend toujours une réponse positive de Pyongyang. Kyodo News évoque la présence de Moon Jae-in à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo. Covid-19, les effets de la vaccination se font ressentir sur le nombre de malades. Enfin, les smart cities sud-coréennes vont s'exporter dans 11 pays.
On débute avec l'actualité internationale. Les États-Unis n'ont pas tardé à réagir au communiqué de Kim Yo-jong. Hier, la sœur du leader nord-coréen a coupé court à toute perspective de reprise du dialogue entre les deux pays. Cela dit, le département d'État américain a réaffirmé qu'il n'y avait pas de changement dans son approche diplomatique en vue de résoudre le dossier nucléaire du pays communiste. Ces propos ont été tenus par son porte-parole. Ned Price a ajouté attendre toujours une nouvelle réaction, cette fois favorable de la part du régime de Kim Jong-un. Interrogé sur la possibilité de communication directe avec Pyongyang, il a répondu que son pays souhaitait toujours une réponse positive de la République populaire démocratique de Corée, la RPDC, le nom officiel de la Corée du Nord, mais qu'il devrait attendre pour voir si ses commentaires sont suivis de communications plus directes vers un progrès potentiel. Le porte-parole de la diplomatie américaine a alors souligné une fois de plus que la politique nord-coréenne de l'administration Biden consistait à résoudre les problèmes et à adopter une approche pragmatique dans son engagement diplomatique visant à dénucléariser la péninsule et non pas à faire preuve d'hostilité. Dans ce contexte, Brian Nelson, proposé pour le poste de secrétaire adjoint au Trésor américain, a plaidé pour le secondary boycott ou boycott indirect, en vertu duquel les institutions et les entreprises accusées de contourner les mesures punitives contre la Corée du Nord sont elles aussi sanctionnées. Il a fait ses remarques lors d'une audition de confirmation organisée par le Sénat.
Le gouvernement japonais a entamé des consultations préalables avec la Corée du Sud, ce qui laisse supposer que le président sud-coréen effectuera un voyage dans l'archipel à l'occasion des JO de Tokyo. C'est ce qu'a rapporté hier l'agence Kyodo News. D'après des sources diplomatiques des deux pays citées par l'agence Nippon, le Japon s'y est mis après avoir entendu les explications de Séoul, selon lesquelles Moon Jae-in envisage activement sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux le 23 juillet, comme l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe avait fait de même lors des JO d'hiver de Pyeongchang organisés en février 2018. L'agence estime que le déplacement présidentiel a été évoqué lors d'une réunion diplomatique entre les deux voisins lundi à Séoul, ajoutant que si le pays du matin clair souhaite en faire une opportunité de dialogue au sommet avec le chef du gouvernement actuel Yoshihide Suga, il n'est pas certain que le Japon soit lui du même avis.
Crise sanitaire à présent. La Cour du Sud a identifié 645 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures, soit 250 de plus que la veille. Une hausse importante, mais logique compte tenu de l'augmentation des dépistages après le week-end. En ce qui concerne la vaccination, un peu plus de 15 millions de personnes, soit 29,4% de la population, ont reçu au moins une première dose et 8,4% d'entre eux sont totalement vaccinés. Lors de la nouvelle réunion quotidienne du Centre de gestion de crise. Aujourd'hui, le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement se concentrerait sur la deuxième injection d'ici à la mi-juillet et qu'il se préparerait méticuleusement à la vaccination massive prévue pour le second semestre de l'année. Kwon Dok-chol a alors tenu à évoquer le fait que le nouveau schéma de distanciation sociale entrera en vigueur le 1er juillet. Il a alors exhorté les citoyens à doubler de vigilance pour se protéger comme pour protéger les autres. Nouvelle restriction étant moins stricte que celle appliquée actuellement.
30% de la population sud-coréenne a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. grâce aux seringues permettant d'extraire le maximum de volume et au système de réservation des doses restantes. Le pays du matin clair est ainsi parvenu à dépasser son objectif. Les effets de la campagne de vaccination se font déjà ressentir. Le nombre des patients en état critique, qui tournait autour de 170 début mai, est tombé à 135 actuellement. Le changement est plus marqué chez les personnes âgées, dont la plupart se sont faites administrer une première dose. Leur proportion parmi les malades atteints de formes graves est passée de 85 à 71% sur la même période. Le taux de létalité, quant à lui, a également régressé de 1,49 à 1,32%. Le calendrier du premier semestre ayant ainsi pris fin, les autorités sanitaires prévoient de reprendre leur souffle pendant 3 semaines en préparant l'injection massive des citoyens de 18 à 64 ans qui va commencer fin juillet. L'occasion de former les personnels médicaux, de leur offrir un congé et d'aménager les équipements et le système. La Corée du Sud projette de faire inoculer 80 millions de doses au troisième trimestre, dont 10 millions vont arriver en juillet. Par ailleurs, le gouvernement mettra en œuvre dès le mois prochain un service permettant d'attester de la vaccination en utilisant un code QR lors de l'entrée dans les lieux publics.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
À l'Assemblée nationale, le Minju, le parti au pouvoir, a enfoncé un clou de plus en adoptant tout seul la proposition de loi sur les jours fériés aujourd'hui en commission. Un texte qui vise le remplacement des jours fériés qui coïncident avec un samedi, un dimanche ou encore un autre jour habituel d'inactivité. Pour cela, la commission permanente compétente, celle de l'intérieur et de la sécurité publique, s'est réunie. Ses députés membres du parti du pouvoir du Peuple, PPP, la principale force de l'opposition, n'ont pas pris part au vote. Ils ont alors dénoncé un manque d'équité dans la législation qui ne sera pas appliquée aux mini-entreprises de moins de 5 employés. Si la loi en question est définitivement votée, elle entrera en vigueur le 1er janvier prochain, mais à titre exceptionnel, les jours de remplacement seront fixés aussi pour les 4 jours concernés du second semestre de cette année. La fête de la libération le 15 août, celle de la Fondation légendaire de la Corée le 3 octobre, le jour de l'alphabet coréen le 9 octobre et Noël.
Le projet fait son chemin pour accorder de nouvelles aides à la population en réponse à la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agit du 5e soutien financier de ce type. Une certaine cacophonie règne cependant entre le Minju, le parti présidentiel et l'exécutif. Le premier réclame un versement universel alors que le second plaide pour un versement ciblé comme à l'accoutumée. Pour le vice-premier ministre à l'économie, Hong Nam-gi, afin de maximiser son effet, il vaut mieux débloquer une grosse somme pour les classes les plus durement touchées par l'épidémie, plutôt que d'octroyer une enveloppe bien maigre à tous les citoyens. Pour le prochain versement, l'exécutif propose donc d'exclure les 30% plus hauts revenus et d'accorder pour les autres 400 000 won, soit près de 300 euros, à chaque ménage d'une seule personne et 1 million de won au maximum, ou 735 euros au foyer de 4 membres et plus. Pour consoler les plus aisés, un système de cashback est prévu pour tous les achats. Il s'agit de rembourser en espèces une partie des dépenses par carte bancaire. Si au troisième trimestre, un consommateur dépense plus qu'en avril et juin, il pourra récupérer a posteriori 10% de la différence. Le plafond du remboursement sera fixé à entre 300 et 500 000 won, mais pour le moment, rien n'est encore déterminé. À ce propos, le premier secrétaire de la Changwade à l'économie, Lee Ho-seung, a annoncé qu'un compromis entre les deux parties allait bientôt être dévoilé. À noter aussi qu'un deuxième additif au budget de l'année devra être adopté pour ces nouvelles aides. Le projet gouvernemental en ce sens prévoit aussi des dépenses pour l'achat de vaccins contre le coronavirus et la création d'emplois. Son montant est estimé à quelque 35 000 milliards de won, soit 26 milliards d'euros.
Au chapitre économie, le gouvernement sud-coréen accordera une enveloppe supplémentaire de 2 millions de dollars à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. Selon le ministère de l'économie et des finances, le vice-premier ministre à l'économie Hong Nam-gi a signé un accord en la matière à la suite de la rencontre en visioconférence avec la présidente de la BERD. La Corée du Sud versera respectivement 1 million de dollars au Fonds coréen d'assistance technique et de coopération et à celui de la transformation condamnation du régime pour soutenir la transition vers l'économie de marché des pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Dans la foulée, Séoul a décidé de débloquer 2 millions d'euros au fonds destiné à venir en aide aux PME et aux start-up.
Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports vient de sélectionner 11 projets de collaboration internationale pour le réseau K-City à travers un concours. Chaque projet concerne un pays différent, une initiative organisée dans le but de trouver des projets de coopération intergouvernementale dans le secteur de la ville intelligente et d'épauler la pénétration sur le marché étranger des entreprises sud-coréennes. Les projets se divisent en trois parties. Tout d'abord, l'établissement d'un plan de développement urbain intelligent. Les sociétés du pays de Matin Clair soutiendront dans ce cadre la zone économique franche de Clark aux Philippines et le complexe pilote de résidence des fonctionnaires de la nouvelle capitale indonésienne, entre autres. Ensuite, le volet Smart Solutions consiste à proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes urbains liés au transport et à l'environnement. Ils viendront en aide à Haiphong au Vietnam pour le système de gestion du trafic ainsi qu'à Santa Cruz au Bolivie pour la transformation des déchets en énergie. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Yoon Hae-jang et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée.